Bonjour à tous, je m'appelle Noah et je serai votre animateur sur PFM pour cette émission. Mes camarades et moi sommes en classe de première HLP du lycée Guy Mollet d'Arras. Avec Madame Crépel, notre professeur de philosophie, et Madame Legrand, professeur de français, nous travaillons sur les pouvoirs de la parole. Et nous allons vous présenter une émission avec PFM qui nous reçoit dans ses locaux aujourd'hui. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Vous êtes-vous déjà senti mal ? Avez-vous déjà eu un chagrin d'amour ? Avez-vous déjà vu un ou une psychologue ? Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il se passe dans le cerveau après un traumatisme ? Si vous êtes déjà posé ces questions, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Écoutons le premier sujet de cette émission par Léa et Clémence.
Nous sommes demandés quels étaient les différents troubles psychologiques et comment on pouvait les soigner. Nous avons donc rencontré la psychologue de notre lycée afin qu'elle réponde à toutes nos questions.
Alors je me présente, donc Madame Roucou, je suis psychologue de l'éducation nationale et donc je travaille au CIO d'Arras, centre d'information et d'orientation, et je travaille également en établissement scolaire.
Quels sont les différents troubles psychiques que vous avez pu rencontrer durant votre carrière ?
Alors en fait, dans le cadre de ma pratique, je rencontre pas mal d'élèves qui viennent me rencontrer parce qu'en fait, depuis quelques années, on est psychologue de l'éducation nationale. Avant, on était conseiller d'orientation psychologue et donc psychologue de l'éducation nationale, forcément, il y a le mot psychologue qui arrive en premier. Donc beaucoup d'élèves viennent nous voir pour nous parler de leur mal-être. Et puis certains jeunes peuvent être en dépression, il peut y avoir des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire. On peut aussi avoir des élèves qui ont des idées suicidaires et qui ont besoin de venir nous voir et de nous en parler. Voilà, beaucoup de stress, d'anxiété globale ou de pression. Voilà, donc nous on est là vraiment pour les accompagner, les écouter. Et du coup j'en profite aussi pour reparler du 3114, hein, le numéro. C'est la ligne de prévention du suicide. Donc si un jeune ne se sent pas bien, et qu'il n'a pas forcément quelqu'un à qui parler, surtout, il ne faut pas hésiter à utiliser cette ligne du 3114. Voilà, voilà un petit peu les globalement, hein, il peut y avoir d'autres problèmes, mais voilà un petit peu pourquoi les élèves peuvent venir nous voir au lycée.
Quel type de personnes peuvent-ils toucher ?
Ben, en fait, je pense que ça peut toucher tout le monde. Ça peut dépendre d'un événement qu'on a eu dans la vie et qui peut nous rendre plus fragiles. Voilà. Donc, je pense que ce sont des problématiques qui peuvent toucher tout le monde à n'importe quel moment. Et dans ces cas-là, surtout, le plus important, c'est qu'il ne faut pas hésiter à en parler, de ne pas rester seul et d'aller vers un professionnel pour se faire aider.
Quelle méthode utilisez-vous pour aider ces personnes ?
Alors ici, moi au lycée, on va dire, la première méthode, c'est déjà l'écoute. Écouter le jeune, le faire parler, en tout cas essayer de le faire parler parce que c'est pas toujours facile non plus. Donc la première méthode, c'est l'écoute. Et puis après, voilà, nous au lycée, on n'est pas psychologue en libéral. Donc après, surtout, dans la mesure du possible, ben, on voit avec les parents pour effectivement faire le lien. Et en fait, on propose aussi aux jeunes d'aller voir son médecin ou pourquoi pas un psychiatre si c'est vraiment un trouble difficile, ou pourquoi pas aussi d'aller consulter un psychologue en libéral. Nous, on peut être à l'écoute au sein du lycée, mais après, nous, on ne fait pas de thérapie au sein du lycée. Donc après, on demande effectivement d'aller plutôt dans un cabinet.
Avez-vous vu une évolution du nombre de personnes touchées depuis le début de votre carrière ?
Alors c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, avant on était conseiller d'orientation psychologue, donc c'est vrai que bien sûr on voyait des élèves en mal-être, mais on voyait aussi beaucoup d'élèves pour l'orientation. Là depuis quelques années on est psychologue de l'éducation nationale. On fait toujours de l'orientation, mais le fait aussi d'avoir le titre de psychologue qui est mis en avant dans notre titre, on va dire, c'est vrai qu'on voit quand même un peu plus d'élèves qui ont besoin de parler et qui sont dans cette situation psychologique difficile. Donc j'ai tendance à dire que oui, de par cette évolution de notre métier, on voit plus d'élèves en difficulté psychologique.
Merci Madame Roucou d'avoir répondu à toutes nos questions.
Mais qu'en est-il de l'intérieur ? Nous avons rencontré une élève de première qui nous a livré son témoignage.
Je m'appelle Verdanina, j'ai 16 ans. Je suis scolarisée au lycée Guy Mollet en première.
Est-ce que tu peux nous raconter quel genre de trouble psychologique tu as touché ? Est-ce que tu pourrais nous le décrire ?
Oui, bien sûr. Donc j'ai vécu la dépression due à mon harcèlement en classe de 3e. Donc à cause de cela, j'ai vécu de la scarification pour me soulager. Et dû à cette scarification, j'ai vécu des troubles du comportement alimentaire, donc de la boulimie et de l'hyperphagie. La boulimie, c'est on ingère une très grande quantité de nourriture pour ensuite aller se faire vomir, donc prendre des cachets, tout ça. Et l'hyperphagie, c'est presque la même chose, sauf que tu manges une grande quantité de nourriture en très peu de temps, mais tu ne te fais pas vomir après.
Quel a été l'impact dans ton quotidien ?
Alors, la dépression, je ne sortais plus de ma chambre, je ne me nourrissais plus, je ne parlais plus à personne, ça a été très difficile pour moi. Je ne rangeais plus ma chambre, j'arrivais même plus à me laver, donc ça a été très difficile.
Et comment ont réagi tes proches ?
Alors, quand ma mère a vu que je ne voulais plus aller au collège, elle est venue me parler, donc elle m'a demandé ce qui se passait, ce qui n'allait pas, et j'ai réussi à lui expliquer que je me faisais harceler. Et elle a vu que je me suis scarifiée, donc elle a réussi à me faire sortir de tout cela.
Et donc comment tu t'en es sortie ?
Alors j'ai réussi à m'en sortir seule, je me suis remise en question, et ma rentrée au lycée m'a fait beaucoup de bien. J'ai rencontré un garçon qui est maintenant mon copain et qui m'a fait sortir de mes troubles du comportement alimentaire. J'ai rencontré une super amie qui maintenant m'a fait sortir de tout cela aussi.
Quel message tu passerais à d'autres personnes touchées ?
Parlez-en autour de vous surtout, c'est très important de ne pas rester seule dans tout cela.
Merci.
À présent, écoutons Chiara et Camille qui vont nous expliquer la différence entre un psychologue et une psychiatre.
Bonjour Camille.
Bonjour Chiara.
Tu sais faire la différence entre un psychologue et un psychiatre, toi ?
Non, pas vraiment. Pourtant, ça aiderait les jeunes à savoir vers qui se tourner en cas de besoin.
La première grosse différence est que le psychiatre est un médecin, tandis que le psychologue n'en est pas un, car il a fait des études de psychologie, contrairement au psychiatre, qui a fait des études de médecine, puis une spécialité.
Ah oui, je vois. C'est pour ça que le psychiatre peut prescrire un traitement, contrairement au psychologue.
Exactement. Le psychiatre peut prescrire un traitement si besoin, mais le psychologue intervient d'une autre manière.
Avec des échanges thérapeutiques, par exemple, ou des exercices de relaxation pour gérer le stress, etc.
Oui, la différence est seulement là. Le psychiatre est un médecin qui peut diagnostiquer des troubles mentaux, puis prescrire un traitement si besoin et selon le trouble, tandis que le psychologue n'est pas un médecin, mais peut quand même diagnostiquer des troubles mentaux avec un médecin, bien sûr.
Merci pour tes explications, Chiara. Mais comment savoir vers qui me tourner si je suis mal ?
Tu peux aller voir un psychologue pour lui expliquer ce que tu ressens, puis en fonction de tes besoins, ton psychologue te guidera vers un psychiatre afin qu'il puisse te diagnostiquer ou autre.
D'accord, merci beaucoup, je sais exactement la différence.
À vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à vous tourner vers un professionnel de santé qui pourra véritablement vous aider. Il n'y a aucune honte ou gêne à ressentir le besoin de consulter.
Tout est plus clair maintenant, merci Chiara.
Marquons une première pause musicale avec Stressed Out de 21 Pilots.
I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Used to play pretend, give a job.
by the different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days, when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days, when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah.
Vous êtes sur PFM et vous allez à présent écouter une mise en scène et un micro-trottoir de Lucille, Rosalie et Louane qui portent sur la pression familiale. Les filles, c'est à vous.
Tu veux te marier, toi ?
Non, franchement, j'ai pas besoin que mon amour soit validé par une cérémonie. Et puis de toute façon, c'est la société qui nous a inculqué que le mariage était un but dans la vie.
Ouais, j'avais jamais vu sous cet angle. Un peu comme avec les enfants ?
Ouais, évidemment. Pour la société, être mère est l'objectif de toute femme. C'est une normalité qu'on a tous intégrée depuis l'enfance, sans vraiment s'en rendre compte. Ça s'appelle la pression sociale normative.
La pression sociale normative ? Attends, je vais regarder ça sur Google. Ah, j'ai trouvé un article. Il dit que la pression sociale normative découle de notre désir d'être acceptée et approuvée par les autres. Elle nous pousse à nous conformer aux normes sociales, c'est-à-dire aux règles et aux attentes implicites ou explicites qui régissent le comportement dans un groupe ou une société.
Oui, voilà. Tu sais que j'avais lu quelque part que d'après une étude du site de rencontre, Badou, 7 célibataires sur 10 ressentent une pression à se mettre en couple. C'est vraiment aberrant. Surtout pour les femmes entre 25 et 34 ans. Tu sais pourquoi ?
Non, dis-moi.
Parce qu'on considère que c'est l'âge pour se poser sérieusement avec un homme et avoir des enfants.
C'est vrai, maintenant que tu me le dis, mes parents me stressent à chaque repas de famille par rapport à ça.
Ah, les fameuses questions. Alors les amours, et à quand les enfants ? Typique des anciennes générations qui pensent encore qu'il faut suivre le modèle patriarcal. Le mari, le chef de la famille, et la femme qui engendre une colonie d'enfants. Mais quel modèle dépassé ! Maintenant, plein de couples n'ont pas d'enfants et ne sont pas mariés.
T'as raison, mais je pense quand même qu'il y a encore pas mal de personnes qui pensent que pour être heureux et épanoui dans sa vie, il faut avoir des enfants et avoir un mari.
Maintenant, dans le cadre de ce questionnement, nous sommes partis interroger des personnes de tout âge et de tout genre pour déterminer si ce ressenti est partagé par la population arageoise.
Avez-vous déjà ressenti une pression de la part de votre famille ou de vos amis concernant le mariage et les enfants ?
Alors j'ai 16 ans en ce moment, donc non, je ne pense pas. Et je ne pense pas à l'avenir non plus.
Non, pas du tout. Parce que mes parents ne sont pas mariés très jeunes et ils ne voulaient pas se marier à la base. Donc... un peu pour les enfants, voilà.
Ouais, si on non, on s'est marié jeune, donc ça, bientôt ça va faire 50 ans de mariage, vous voyez. Et on est toujours ensemble sans, ouais, sans problème, voilà.
Alors, en vrai, pour les enfants, peut-être, parce que bah, moi, j'en veux pas forcément, genre. Et en fait, il y a ma maman, elle fait, ouais, en gros, ouais, faut que t'aies des enfants plus tard, machin et tout, pour continuer la lignée, machin.
Moi personnellement non, parce que mes parents ils sont plutôt mariés, ils sont assez ouverts là-dessus. Et donc il n'y a vraiment pas de soucis là-dessus dans ma famille, donc moi ça va.
Non, pas spécialement. Dans ma famille on est assez communicatif, etc. Donc on se dit les choses. Et le plus important c'est d'être bien, aussi bien dans sa tête, etc. Donc après, non, c'est au fil du temps, etc. On réfléchit et on peut exprimer ce qu'on ressent, mais pas vraiment de pression, non. Pas du tout, je dirais.
Oui. oui, étant donné que j'ai choisi d'être homosexuelle, effectivement, au niveau des attentes familiales, le mariage, la vie conventionnée, des enfants, et je suis carrément partie autrement.
Oui, moi aussi, il y a eu des attentes atteintes, du coup. Mais pareil, en ayant choisi d'être avec une femme, c'est vrai que les enfants, la famille, il faut reconstruire ce que notre famille pense de nos choix de vie.
Oui, tout à fait. Au niveau du mariage, les parents veulent toujours faire un grand mariage et tout ce qui s'ensuit. Moi, j'étais pas trop pour. Mon mari, plus, lui, parce que c'est plus... dans ta famille
où... Malgré tout, ils ont essayé d'influencer quelques choix d'invités, de préparatifs. Et,
inviter des gens que nous, on s'en foutait complètement.
On a réussi à avoir gain de cause et faire comprendre que c'était notre mariage et que on voulait certaines choses et ça a été respecté, oui.
Et au niveau des enfants, une pression, oui ou non. En fait, on n'a pas pu avoir d'enfants. Donc quelque part, pas au niveau de la famille, mais au niveau de la société. C'est pesant parce que à partir du moment où vous êtes pas, vous n'avez pas d'enfant, en fait vous êtes rien dans la société. Hein. Vous êtes, on vous calcule pas du tout quoi. Parce que quand vous allez en famille ou chez des amis, à part parler de leurs enfants, ils n'ont pas d'autres sujets de conversation et nous comme on n'a pas, c'est compliqué. C'est compliqué, donc forcément,
donc ça,
ça a créé des distances.
Avec
ouais.
Avec
bon, on a fait notre deuil de tout ça, quoi. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, même encore maintenant, s'en fout, lâchez-les vos gosses, quoi, un petit peu, quoi. C'est vrai. Puis vivez votre vie à vous aussi, parce qu'on est, ils sont pas que des parents, quoi. Ils sont aussi des femmes, des hommes avec des vies, avec des, enfin voilà, quoi. Mais les gens s'oublient complètement dès qu'ils ont des enfants. Donc voilà.
Bien répondu.
Est-ce que vous pouvez concevoir une vie sans être mariée et avoir des enfants ?
Oui, carrément. oui.
Il fallait avoir des enfants puis être mariée, pour moi.
Non. C'est un double, c'est un triple, non. Je veux des enfants et un mari. Mais ouais, voilà, c'est tout.
Alors, il se trouve que je suis marié, que j'ai des enfants et que ça représente toute ma vie. Je pense que c'est le plus important pour moi. Et je ne conçois absolument pas de vivre sans ma famille.
C'est tellement épanouissant. Ça... Non, je pense que j'aurais pas pu. Voilà.
Une vie sans avoir d'enfants, je sais pas, mais sans être marié, en vrai, ça dérange pas. Si je suis avec une fille, pour moi, c'est la bonne, en soi, c'est bon. Mais un enfant, en vrai, c'est quand même bien pour... Je vois pas ma vie sans au moins un enfant plus tard.
Oui, je pense que c'est important aussi de voir ce qu'on veut dans la vie et moi personnellement j'aimerais bien, c'est un objectif que j'ai dans ma vie, mais si ça se concrétise pas, faut vivre au jour le jour.
Vraiment intéressant. Maintenant, écoutons Madeline et Élise qui vont nous parler de la pression scolaire.
Les jeunes ont un sentiment de solitude, plainte psychologique et ou somatique, risque de dépression, pensée suicidaire. La santé mentale des ados se dégrade au cours du secondaire. Selon Santé publique France, un quart des élèves éprouvent un sentiment de solitude. Ce sentiment est plus souvent présent chez les lycéens que chez les collégiens. La moitié des jeunes interrogés ont des plaintes psychologiques ou somatiques récurrentes.
Alors, la pression scolaire, c'est un stress constant, une angoisse par rapport aux notes obtenues, un sentiment de mal-être. Elle se forme par la peur de mauvaises notes, d'une charge de travail qui peut être excessive, mais également d'une perte progressive de motivation.
D'après vous, comment se manifeste-t-elle ?
Elle peut se manifester par des troubles du sommeil, de l'irritabilité, des blocages dans certaines matières ou par certains symptômes comme des maux de tête, des nausées, vomissements ou douleurs abdominales.
La pression scolaire a-t-elle un impact sur la santé mentale des jeunes ?
Oui, elle a un impact sur la santé mentale car elle peut provoquer du stress, de la phobie scolaire, des troubles du sommeil et de la dépression.
À quoi peut être dû le fait que le sentiment de solitude arrive plus vers l'âge du lycée que le collège ?
Alors la solitude peut être due à la peur de l'échec, le fait de se présenter aux épreuves du bac, mais aussi la peur du choix de son orientation. Après, pour certains, la solitude peut aider à réguler les émotions et avoir un effet calmant.
Mais à quoi peut être dû aussi le fait que les jeunes présentent des signes répétitifs de nervosité et de la difficulté à s'endormir ? Est-ce dû à la pression scolaire ?
Alors, pas forcément. La difficulté pour s'endormir chez l'adolescent est d'abord un peu physiologique. En général, il y a des changements au moment de l'adolescence. Mais la pression scolaire peut accentuer les difficultés à s'endormir et les troubles du sommeil.
Est-ce que la pression scolaire est plus présente maintenant qu'avant ?
Alors, je pense qu'elle est plus présente maintenant parce qu'on en parle de plus en plus souvent.
Comment peut-on arranger cela ?
Alors, il ne faut pas hésiter à communiquer, à en parler, améliorer la gestion du stress en faisant par exemple de la sophrologie, améliorer la gestion du temps aussi, avoir un équilibre entre la vie scolaire et la vie personnelle, recevoir des encouragements positifs, faire peut-être du soutien scolaire et consulter un psychologue si ça prend trop d'ampleur.
Vous venez d'entendre une interview de Madame Jacotin, infirmière du lycée Guy Mollet d'Arras. À présent, enchaînons avec une nouvelle pause musicale avec Small de Lauren Spencer Smith.
I've been holding my stomach in for so long. Don't even notice I'm doing it anymore. I work out hard 7 days a week, but I don't feel any differently. I wonder if I'll ever change. I don't think I can live this way. I wake up hating my body, scared that there's nothing that'll make it better. If I'm not happy and skinny, quiet and pretty, do I even matter? Hey, being hungry when I go to sleep, biting my tongue so much it's gonna bleed. I'm killing myself, but I don't think it's helping at all. Trying to be small. Walk over me and I take it so politely, 'cause I still care what they think and if they like me. I used to smile and show my teeth, now I don't smile at anything. I wonder if I'll ever change. I don't wanna be this way. There's nothing that'll make it better. If I'm not happy and skinny, quiet and pretty, do I even matter? Hey, being hungry when I go to sleep, biting my tongue so much it's gonna bleed. I'm killing myself, but I don't think it's helping at all. I'm killing myself and I don't think it's healthy at all. Trying to be small.
C'était Small de Lauren Spencer Smith. À présent, penchons-nous sur un sujet plus sensible qui mérite tout de même d'être mis en lumière. Je vais maintenant vous faire une chronique sur les traumatismes. Les traumatismes sont des expériences profondément perturbantes qui peuvent avoir un impact durable sur la vie d'une personne. Ils peuvent être le résultat d'événements variés, tels que des accidents, des violences physiques ou émotionnelles, des catastrophes ou même des pertes importantes. Lorsqu'une personne subit un traumatisme, elle peut ressentir une gamme d'émotions, allant de la peur et de la colère à la tristesse et à l'anxiété. Ces réactions sont normales, mais elles peuvent parfois conduire à des troubles psychologiques, comme le trouble de stress post-traumatique, qui se manifeste par des flashbacks, des cauchemars et une hypervigilance. Des solutions existent pour aider les personnes ayant vécu un traumatisme. Cela peut impliquer des thérapies, comme la thérapie cognito-comportementale, qui aide les individus à traiter leurs émotions et à développer des stratégies d'adaptation. Le soutien social joue également un rôle clé, car parler de ses expériences avec des amis, de la famille ou des professionnels de santé peut aider à alléger le fardeau émotionnel. Il est essentiel de tous nous sensibiliser au traumatisme. Une meilleure compréhension peut réduire la stigmatisation et encourager les personnes à rechercher de l'aide. En fin de compte, la guérison est un processus personnel qui varie d'une personne à une autre. Mais avec le bon soutien et les bonnes ressources, il est possible de surmonter les effets d'un traumatisme. À présent, nous allons écouter le témoignage de Delphine, ayant vécu un accident routier.
Il y a 24 ans, j'ai eu un grave accident de la route. En fait, je sortais du travail et j'ai eu la malheureuse expérience de rencontrer un homme dans un état d'ébriété avancé, avec 2,25 g dans le sang, et il ne m'a pas vu sur la route avec mon véhicule et il m'a rentré dedans en criant un stop. En fait, on se lève un matin, on est une jeune fille de 24 ans, toute neuve, et on se couche le soir avec un visage défiguré, un œil en moins, des bleus, des vertèbres déplacées. Et en fait, c'est une petite mort, puisque cette jeune fille de 24 ans n'existe plus.
Comment on se reconstruit suite à un tel événement?
Alors, se reconstruire, c'est un bien grand mot. C'est se réinventer. Et surtout, ensuite, il faut être bien entouré, avoir une famille aimante et aidante. Mais c'est un gros travail psychologique à se faire régulièrement et se mettre des gros coups de pied aux fesses pour dire de pouvoir avancer, sinon on sombre.
Comment vous le vivez actuellement?
Actuellement, j'ai 49 ans, j'ai un fils merveilleux, mais c'est tout de même un combat de chaque jour, puisque tous les jours, tu y penses, tu te vois dans le miroir et tu sais ce que tu n'es plus.
Nouvelle pause musicale avec Midi 20 de Grand Corps Malade.
Je suis né tôt ce matin, juste avant que le soleil comprenne qu'il va falloir qu'il se lève et qu'il prenne son petit crème. Je suis né tôt ce matin, entouré de plein de gens bien, qui me regardent un peu chelou et qui m'appellent Fabien. Quand le soleil apparaît, j'essaie de réaliser ce qui se passe. Je tente de comprendre le temps et j'analyse mon espace. Il est 7h du mat sur l'horloge de mon existence. Je regarde la petite aiguille et j'imagine son importance. Pas de temps à perdre ce matin, je commence par l'alphabet. Y'a plein de choses à apprendre si tu veux pas finir teubé. C'est sûr, je serai pas un génie, mais ça va, y'a pire. Sur les coups de 7h30, j'ai appris à lire et à écrire. La journée commence bien, il fait beau et je suis content. Je reçois plein d'affection et je comprends que c'est important. Il est bientôt 9h30 et j'aborde l'adolescence. En pleine forme, plein d'envie et juste ce qu'il faut d'insouciance. Je commence à me la raconter, j'ai plein de potes et je me sens fort. Je garde un peu de temps pour les meufs quand je suis pas en train de faire du sport. Emploi du temps bien rempli et je suis à la bourre pour mes rencarts. Putain, la vie passe trop vite, il est déjà 11h moins le quart. Celui qui veut me viser, je lui conseille de changer de cible. Me toucher est impossible, à 11h je me sens invincible. Il fait chaud et tout me sourit, il manquait plus que choix amoureux. C'est arrivé sans prévenir, sur les coups d'11h moins 2. Mais tout à coup, alors que dans le ciel, y'avait pas un seul nuage à éclater au-dessus de moi, un intolérable orage. Il est 11h08, quand ma journée prend un virage pour le moins inattendu, alors je tourne mais j'ai la rage. Je me suis pris un éclair comme un coup d'électricité. Je me suis relevé mais j'ai laissé un peu de mobilité. Mes tablettes de chocolat sont devenues de la marmelade. Je me suis fait à tout ça, appelez-moi Grand Corps Malade. Cette fin de matinée est tout sauf une récréation. À 11h20 je dois faire preuve d'une bonne dose d'adaptation. Je passe beaucoup moins de temps à me balader rue de la Rep, et j'apprends à remplir les papiers de la Cotorep. J'ai pas que des séquelles physiques, je veux pas faire le Tommy, mais y'a des cicatrices plus profondes qu'une trachéotomie. J'ai eu de la chance, je suis pas passé très loin de l'échec et mat, mais j'avoue que j'ai encore souvent la nostalgie de 10h du mat. «
À midi moins le quart, j'ai pris mon stylo bleu foncé. J'ai compris que lui et ma béquille pouvaient m'aider à avancer. J'ai posé des mots sur tout ce que j'avais dans le vide. J'ai posé des mots et j'ai fait plus que combler le vide. J'ai été bien accueilli dans le cercle des poètes du bitume. Et dans l'obscurité, j'avance au clair de ma plume. J'ai assommé ma pudeur, j'ai assumé mes ardeurs. Et j'ai slamé mes joies, mes peines, mes envies et mes erreurs. Il est midi 19, à l'heure où j'écris ce contexte. Je vous ai décrit ma matinée pour que vous sachiez le contexte. Car si la journée finit à minuit, il me reste quand même pas mal de temps. J'ai encore tout l'après-midi pour faire des trucs importants. C'est vrai que la vie est rarement un roman 18 tomes. Toutes les bonnes choses ont une fin, on ne repousse pas l'ultimatum. Alors je profitais de tous les moments qui me séparent de la chute. Je vais croquer dans chaque instant, je ne dois pas perdre une minute. Il me reste tellement de choses à faire que j'en ai presque le vertige. Je voudrais être encore un enfant mais j'ai déjà 28 piges. Alors je vais faire ce qu'il faut pour que mes espoirs ne restent pas vains. D'ailleurs je vous laisse, là c'est chaud. Il est déjà midi 20.
Avez-vous déjà été amoureux? Oui, enfin, quelle question. C'est un sentiment humain, après tout. L'amour est un sujet complexe, qui peut parfois être tabou. Mais Nina et Audren nous ont préparé quelque chose qui apportera quelques réponses sur ce sentiment qu'est l'amour.
Beaucoup l'ignorent, mais sur le plan biologique, l'attachement amoureux active des zones spécifiques du cerveau, libérant des neurotransmetteurs, comme la dopamine et l'ocytocine. Ces neurotransmetteurs sont associés au plaisir et à la connexion émotionnelle.
Beaucoup de termes spécifiques, dis donc. Moi aussi j'ai des informations à vous apporter. Tout d'abord, l'amour a des effets positifs sur la psychologie. Il améliore la communication. Il développe des compétences relationnelles comme l'empathie.
Si je comprends bien, tu dis que l'amour peut avoir une incidence sur le comportement.
C'est ça. Voyons ce qu'en pensent les personnes que nous avons rencontrées dans les rues d'Arras.
Croyez-vous que l'amour peut changer votre personnalité ou votre comportement? Si oui, pourquoi?
Alors oui, je dirais que ça peut changer le comportement. Pourquoi? Parce qu'on fait attention à l'autre et que l'autre influence forcément notre comportement.
Honnêtement, non, parce qu'en soi, j'aime bien faire le bête. Enfin, je suis plutôt ouvert là-dessus. En soi, j'ai pas envie de changer pour une personne pour qui je suis amoureux. Honnêtement, je préfère rester moi-même, c'est ça qui est le plus beau.
Pour moi, ça peut impacter positivement ou bien aussi négativement. Par exemple, s'il y a une dispute, forcément on peut être triste, etc. Et le quotidien peut en pâtir.
Non, je pense que ce serait moi qui ferais changer la personne. Au contraire, voilà, parce que je suis une personne qui influence les gens, mais vers le bien en fait, voilà. Mais moi, je vais pas changer, ça je sais.
Je pense que ça peut changer en partie notre comportement ou notre personnalité. Après, je pense que le plus important, c'est d'être avec la personne avec qui on se sent bien, qui permet d'être nous-mêmes avant tout. Donc oui, ça peut forcément changer, par exemple, des petites habitudes, des petits traits de personnalité, mais pour moi, le principal, c'est d'être avec la personne qui permet d'être nous-mêmes et de pas d'avoir de pression, etc., d'être qui on est au quotidien.
Oui, oui, bah oui, hein. Surtout quand on est jeune, on est bête.
D'ailleurs, nous, on a peut-être franchi un cap maintenant où là, je...
On va à tout prix plaire à la personne avec qui on est, alors que pas du tout. Hein.
Les premiers amours, oui.
C'est forcément, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, on n'est pas soi-même et on essaye de plaire à l'autre et alors que, en règle générale, l'autre, il s'en fout complètement. S'il vous aime, c'est il vous aime comme il vous a connu, quoi. Mmh. Et pourquoi changer? S'il supporte pas, c'est que c'est pas la bonne personne et puis c'est tout.
L'amour peut donc renforcer les liens entre les partenaires et favoriser un sentiment de sécurité et de bien-être. Mais est-ce le cas pour tout le monde?
Eh bien non. L'amour peut également avoir des effets néfastes.
Mais quels sont-ils?
Les relations toxiques et les ruptures peuvent entraîner des troubles de l'humeur, du stress ou même des problèmes d'anxiété.
Donc, la vie amoureuse affecte la santé mentale?
En effet. Et nous avons posé cette question aux personnes d'Arras.
Comment la vie amoureuse d'une personne peut-elle affecter sa santé mentale?
Par exemple, si il casse avec toi, avec vous plutôt, ça peut faire que les personnes deviennent fous. Comme par exemple, je connais des personnes... dans mon entourage, genre mes amis, qui avaient un petit ami pendant très longtemps et ça s'est très très mal passé, voilà, je tiens juste à le préciser, et voilà.
Ah ça je sais pas trop, en vrai ça peut quand même beaucoup l'affecter, ça dépend de la personne avec qui on est, mais genre si la personne est un peu toxique, ça peut le rendre un peu triste, ou si la personne est, ouais si je pense que ça peut être un peu dangereux, genre éviter d'avoir de personnes toxiques et essayer d'avoir le plus parler avec la personne avec qui on est, parce que sinon ça peut mal finir.
Comment la vie amoureuse d'une personne peut-elle affecter sa santé mentale?
Si ça la change trop, justement. Si ça la change trop, voilà, faut faire attention à pas changer pour la personne qu'on aime. Et faire attention aux violences aussi. Voilà, aux violences conjugales et sexistes et sexuelles, et c'est super important. Faites attention aux violences.
Bah, tout dépend avec, avec quelle personne on est. Parce qu'il y a des gens qui sont manipulateurs. Il y a des gens qui peuvent... moi, j'ai vécu ça avant d'être avec mon mari. J'ai vécu avec quelqu'un qui était violent psychologiquement, physiquement et psychologiquement. Il arrivait à me faire croire que tout ce qui se passait, c'était à cause de moi, alors que pas du tout. Hein. Et c'est difficile, c'est très très compliqué de sortir des griffes de ce genre de personne. Et psychologiquement, ben, en fait, on se rabaisse, alors qu'on n'a pas du tout à se rabaisser. Il faut avoir le déclic de partir. C'est compliqué, mais... Alors, moi, quand je parle de ça, il y a 25 ans, plus de 25 ans en arrière, on ne parlait pas de ces choses-là. Déjà, aller voir un psy, on n'en parlait pas, parce que aller voir un psy, c'est parce qu'on était fous. Alors que non, au contraire. Si vraiment on avait été suivi pour d'autres choses aussi, je pense qu'il y aurait plein de choses à l'heure actuelle qui n'arriveraient pas, quoi. Et oui, ça peut effectivement atteindre la santé mentale, oui, la personne avec qui vous vivez. Enfin, la personne, ouais, c'est indéniable.
On voit que l'amour agit de plusieurs façons sur la psychologie humaine et qu'il affecte donc à la fois notre bonheur et notre santé mentale.
Dernière pause musicale avec Another Love de Tom O'Dell.
I wanna take you somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up. On another love, all my tears have been used up. On another love, all my tears have been used all on another love, all my tears have been used all. Oh, no.
Nous arrivons à l'issue de cette émission. Merci beaucoup de votre écoute. La classe de première HLP du lycée Guy Mollet d'Arras vous remercie et remercie les équipes de PFM pour l'accueil. Allez, ciao ciao !
Bye bye !
Salut tout le monde !